Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Éclairage avec, vous savez, une préoccupation qui est la nôtre, j'allais dire toujours la même, mais c'est un petit peu un fil rouge, un combat quotidien, un combat de tous les instants, celui de la langue française, de la bataille du français. C'est d'ailleurs un titre qu'on aura l'occasion de revoir dans quelques instants, puisque Axel Mauget prévoit un nouvel essai sur la question. Axel Mauget, vous l'avez compris, est notre invité précisément pour évoquer cette belle question, le privilège du français aux éditions Humanitas, avec tous les enjeux que cela sous-tend. Bonjour Axel Mauget.
Bonjour chère Annette Sauty de Chalon, fait plaisir de vous revoir.
Merci beaucoup d'être avec nous et vous êtes un habitué bien sûr de Canal Academy et on apprécie votre regard précis, votre regard aussi circulaire sur la langue française. On vous appelait d'ailleurs le Raymond Aron de la francophonie. Ça, c'est un bel éloge. Hein.
Écoutez, si vraiment ça pouvait être le cas, j'en serais très heureux et ça serait un hommage pour Raymond Aron, qui est une grande figure à la fois de la France et du libéralisme français, ce qui est une espèce qui n'est pas très, 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 très nombreuse, si j'ose dire.
Alors, vous avez reçu pas mal de prix et de récompenses. Hein. Je cite en particulier un grand prix d'académie, médaille de vermeil de l'Académie française pour l'ensemble de vos travaux pour la défense de la langue française. C'était en 2006, d'ailleurs, on avait eu l'occasion d'en parler. Vous avez écrit plusieurs, alors je n'ai pas compté, mais plusieurs dizaines d'ouvrages, non, qui ont quand même trait au français, enfin du moins ouvrages et conférences. Si on devait additionner tout cela, ça serait phénoménal. Avec une certaine reconnaissance à l'étranger, il faudrait que vous nous en parliez. À quand remonte votre dernière conférence, par exemple?
Les dernières conférences remontent dans ma chaire, non pas à l'étranger, mais en France, à la Sorbonne. Ce fut ma dernière conférence sur le dialogue franco-américain. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et la dernière grande tournée de conférences, ce fut aux États-Unis, justement, dans le cadre de... J'étais invité par les Alliances françaises, la Fédération des Alliances françaises, et j'ai eu l'occasion de parler dans 7 villes, 3-4 sujets différents, moitié en anglais, moitié en français. Donc, certaines conférences étaient uniquement en anglais, d'autres conférences uniquement en français. Mais toutes ces conférences portaient exclusivement sur le français, le dialogue des cultures et l'avenir, évidemment, de notre langue et l'avenir des relations. Vous savez, je me tourne un peu vers la géopolitique, parce que aujourd'hui, si on ne fait pas un peu de géopolitique, je crois que c'est insuffisant.
Alors, on va en parler, bien sûr, Axel Mauget. Je voulais revenir juste avant d'entamer vraiment notre entretien. Vous êtes spécialiste de civilisation française et des littératures de la francophonie. Est-ce que c'est intitulé et reconnu à l'échelle universitaire?
Écoutez, pas vraiment. Et vous avez raison de dire cela, parce que, je l'ai dit déjà plusieurs fois, il y a très peu de chaires de civilisation francophone en France. À part la Sorbonne, et je ne sais même plus si celle de Strasbourg est vraiment activée. Et donc, si, j'avoue, on va s'amuser, mais si j'étais président de la République, la première chose, dans le domaine culturel, dans le domaine universitaire, je vais en parler à Jean-Robert Pitt, la première chose que je ferais, c'est créer minimum une quinzaine de chaires de civilisation francophone, ou de la francophonie en France.
Jean-Robert Pitt, président de la Sorbonne.
Président de la Sorbonne et auteur de plusieurs pamphlets solides, etc., etc.
Et d'ailleurs, vous auriez pu lui suggérer l'idée déjà, peut-être en avez-vous
déjà
parlé.
J'en ai déjà un peu parlé, pour ne pas vous le cacher, mais peut-être pas aussi directement, etc. Ben, je lui envoie le message par justement l'Internet, ce qui est pas... mais je lui en parlerai prochainement.
Est-ce que ça signifie que dans la recherche, il y a des trous comme ça, qui ne sont pas vraiment traités? Est-ce qu'on traite du français sous une forme, par exemple, d'une part de la linguistique, et puis d'autre part, je ne sais pas moi, de la grammaire, et que la civilisation de la francophonie reste un domaine relativement inexploré?
Les civilisations de la francophonie, vous savez, c'est un sujet qui est immense.
Bien sûr.
Donc, c'est assez difficile à cerner, à serrer. Et puis, vous ne pouvez pas enseigner ce que vous ne connaissez pas. Et lorsque l'on parle souvent de littérature, ne serait-ce que les littératures africaines de langue française, vous ne pouvez pas vraiment bien en parler si vous n'êtes pas à l'origine un ethnologue. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile. Or, très peu de professeurs de français, notamment de gens spécialisés sur la littérature écrite en français en Afrique, ont une formation d'ethnologue. Donc, le problème, il est un petit peu là, si vous voulez.
Ils ont une formation littéraire,
voilà,
mais pas d'ethnologie qui, justement, permet de comprendre.
Pas suffisamment, ou rarement.
En partie.
Rarement. Donc, là, c'est un véritable problème.
Là, c'est un point important que vous soulevez en matière de formation.
Ah, je crois que oui, c'est difficile, sans être ethnologue, si vous voulez, de connaître les us et coutumes de ces pays. Ben, c'est un très vaste sujet, et ce qui a nuit, si vous voulez, aux études francophones, c'est le problème, évidemment, du colonialisme, de la colonisation. Et pour nous, Français, ou pour les Français, il y a véritablement ce problème de la colonisation. Alors, au départ, on ne connaissait pas très bien ces peuples, sauf certains de nos experts, parce que nous avons de très bons experts. Et ensuite, il y a toujours eu cette peur du néocolonialisme, même de notre part, en se disant, oh là là, on recommence, est-ce qu'on va pas ? Et alors, on n'a pas voulu trancher.
On est resté un peu en retrait.
On est resté en retrait. Alors qu'il aurait été très important, au contraire, d'aller vers ces gens-là, de les connaître au maximum, parce que nous avons beaucoup de gens qui les connaissent bien. Je me souviens un personnage, on oublie l'historique de la francophonie. Je me souviens d'un homme comme Robert Cornevin, par exemple, qui était de l'Académie des sciences d'outre-mer. C'était un personnage qui connaissait, qui aimait l'Afrique avec sa femme, je crois que c'était Marianne Cornevin. Je pense aussi à des gens comme Auguste Viat qui allait sur le terrain. Auguste Viat sur l'Amérique française, sur la francophonie, Larousse 1969. Des gens très férus, des érudits. Et n'oubliez pas, j'ai un de mes correspondants récemment qui m'a écrit d'Inde et des Indes et qui me dit « Pour moi, la France... » Et beaucoup de Français que je connais représentent là. La France, c'est l'érudition, c'est la gentillesse et c'est l'ouverture d'esprit. Merci.
Une belle image. Tâchons d'en être dignes de tout cela.
Hein. Tâchons d'en être dignes. Vous avez tout à fait raison.
Alors, nous allons bien sûr regarder, jeter un œil sur la façon dont vous avez conçu votre raisonnement. Il y a le privilège du français d'hier à aujourd'hui. On parlera en particulier de l'Europe francophone au siècle des Lumières. Il faut que vous en parliez. On ira ensuite dans des contrées... assez chaud en Europe, on va dire, c'est qui aime aussi le, comment dirais-je, qui ont beaucoup compté dans la Renaissance française. Il s'agit bien sûr de l'Italie, l'exemple de l'Italie francophile. Mais auparavant, une question. Après, on ira au Québec aussi. Hein. Vous nous parlerez du Québec, c'est votre troisième partie. Est-ce que parler une langue, c'est un privilège ?
Je crois que parler une langue, si vous voulez, c'est un privilège dans la mesure où cette langue incarne des valeurs profondes d'humanité. Et il y a d'autres langues, bien d'autres langues que le français qui incarnent des valeurs d'humanité, mais le français fait partie justement de cette gerbe de privilèges, si j'ose dire. Et j'ai trouvé ce titre, il est venu comme cela, en écoutant, relisant Maurice Druon, où il disait, Maurice Druon, « Si l'anglais est une nécessité, le français demeurera à jamais un privilège. » Et je crois que c'est important. Je crois que le français a suffisamment de qualités humaines, culturelles, politique, je m'en tiens là, si vous voulez, etc., pour, dans le monde d'aujourd'hui qui est extrêmement complexe, troublé, troublant et inquiétant, je dirais même, il apporte comme une sorte de lumière, d'abord, je n'ai rien à voir avec Jeanne d'Arc, mais il apporte une espèce de, je dirais, de luminosité, de clarté qui permet aux gens, parfois un petit peu perdus dans l'univers de la pensée, de se dire, tiens, voilà ce que pense la France, voilà ce que pensent certains esprits français, et ça me semble juste. Gardez un peu cette raison, ce côté Descartes. Il faut revenir toujours à nos grands anciens, de Rabelais à Descartes et à bien d'autres, où, pour, dans le monde entier, regardez, aux États-Unis, c'est une formule, je l'ai déjà dit, mais je le répète, aux États-Unis actuellement, quels sont les deux écrivains les plus appréciés de l'intelligentsia ? Eh bien, j'ai posé la question à différentes personnes, on va me dire Camus, on va me dire, c'est vrai, tous ces gens-là sont appréciés. Mais les deux personnes qui, vraiment, les deux grands écrivains, eh bien, c'est Proust et c'est Céline. Imaginez un peu de l'arc, c'est énorme, de Proust à Céline, mais de styliste. Or, ce que les étrangers aiment dans la France, et nous aimons aussi les choses faites à l'étranger, mais ce qu'ils aiment de la France, c'est justement ce style, cette forme. Nous avons réussi à...
Alors, Céline, c'est quand même un rien provocateur. Est-ce que ça représente la littérature française en soi ou est-ce qu'ils aiment un caractère très prononcé ?
Je pense que c'est très provocateur. Ils aiment quelque chose de prononcé. Ils aiment surtout cette liberté de parole, qui est souvent un peu terrible chez Céline, il faut bien le dire, mais qui est respectée. C'est-à-dire qu'en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays, attention, nous avons une telle, je dirais, une telle ouverture, si vous voulez, de style, un tel flow stylistique, que nous pouvons choisir. Nous avons la liberté du choix. Et ce qui est grave, c'est de ne pas avoir la liberté du choix. Or, en France, nous l'avons. Mais attention, l'époque quand même devient dure. Les gens qui regardent à la télévision, par exemple, Love Story, ou etc., etc., on est très loin de Voltaire. Donc, en France même, aujourd'hui, il y a, je dirais, comment le dire, une sorte de communautarisme, même des publics, par rapport aux choses culturelles qui... C'est évidemment très difficile de dire ce qui est...
Qui cloisonne et ne fédère pas.
Et voilà, tout à fait.
Alors, Axel Mauget, quand même, encore une question, parce que vous nous dites qu'aux États-Unis, Proust et Céline sont appréciés. Aucun rapport en soi entre Proust et Céline.
Non.
Qu'est-ce que les Américains aiment chez Proust ?
Bah, Proust, c'est
ces belles phrases longues.
L'univers de la psychologie. Non, je crois que c'est un univers de la psychologie d'une intimité formidable. Et c'est un homme qui explore à l'infini l'univers des sentiments, plus que des sensations peut-être, mais l'univers des sentiments.
Mais ça veut dire que ce ne sont pas nos auteurs raisonnables, cartésiens, qui l'emportent.
Aux États-Unis en ce moment, c'est le cas. Disons, si vraiment le choix est plutôt du côté, en effet, de Proust, et ce n'est pas le choix cartésien. Par contre, viennent en deuxième position très très vite de grands auteurs, Chateaubriand, Camus, voire même Sartre, beaucoup d'autres encore, etc. Donc, même Bernanos, un peu après, etc., sur troisième ou quatrième position. Donc,
ce qui est bien quand même, parce que Céline, il faut le reconnaître, en France, c'est quand même un peu marginalisé. Hein.
Ah oui, oui.
C'est même un euphémisme.
Oui, tout à fait. Et
Bernanos aussi.
Oui, aussi.
Alors qu'aux États-Unis, ils arrivent quand même dans la liste des 10 premiers.
Et là, vous m'interpellez, cher ami. Est-ce que ce n'est pas le problème de notre manque de francité, de certains d'entre nous, qui fait justement que nous oublions même nos propres auteurs ? Et de ne pas les lire, ne pas assez les lire, de ne pas assez nous frotter à ces auteurs en se disant qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter dans la France d'aujourd'hui, dans la France de demain, etc. Moi, je crois qu'en France, et c'est ce que certains étrangers déplorent, je crois, nous n'osons plus, à l'époque d'aujourd'hui, vraiment relire. Il y a Charles Danzig qui a fait quelque chose de bien là récemment, etc., et d'autres encore. Mais nous ne sommes pas assez nombreux, je dirais, à aimer cette francité.
Charles Danzig, expliquez.
Il a écrit son dictionnaire égoïste, qui, je trouve, est quelque chose d'intéressant. Il donne beaucoup, bon, on peut ne pas être d'accord toujours avec lui, mais enfin, ses formules sont intéressantes. Voilà quelqu'un qui réfléchit, voilà quelqu'un qui nous apporte une belle moisson de documents sur les écrivains, qui fait ses choix, etc. Donc il a un certain courage, Charles Danzig, j'apprécie.
Axel Moget, vous avez dit qu'il faut que nous retournions à nos anciens. Mais est-ce que les anciens dont vous nous parlez avaient conscience que le français était en soi un privilège ? Ou bien est-ce que c'est une découverte a posteriori ? Avec le recul du temps, on s'est dit que le français est effectivement une construction qui a édifié toute notre culture et qu'il faut choyer.
Je crois que c'est une très belle question. Je n'ai pas dit forcément qu'il fallait seulement, on est d'accord là-dessus, retourner seulement aux anciens. Non, non, il faut piquer aujourd'hui, piquer hier, piquer avant-hier, etc. Mais notre France, et c'est fabuleux, c'est le 18e, le 17e, là, vous avez, notre pays est fondé là-dessus. Il a 1000 ans d'histoire, mais outre ce 1000 ans d'histoire, il a 3, 4, 5 siècles de littérature exceptionnelle, d'investigation du monde, d'exploration. Et ne l'oublions pas, pourquoi en France, jamais nous accepterons, et là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est pas grave, une femme voilée, parce que justement, au XVIIIe siècle, nous avons tout fait pour que l'homme et la femme arrivent à une certaine égalité. Donc nous ne pouvons pas, c'est dans nos gènes, c'est pas être anti contre les musulmans, pas du tout. On les respecte, ils font ce qu'ils veulent avec eux. C'est très bien. Mais nous, Français, en France, l'égalité entre les sexes, ça existe.
La passion de l'égalité.
La passion de l'égalité, voilà, très beau titre.
Avec tous ces effets pervers aussi, hein.
Ah, c'est vrai, c'est un autre. Non, mais c'est vrai.
C'est un autre sujet.
C'est un autre sujet et c'est complexe. Donc, il ne faut pas être naïf, si vous voulez, par rapport à cela. Je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez bien raison. Mais revenons au 18e. Le 18e, c'est quand même la fondation de 1000 bonnes choses. 17e aussi, il ne faut pas oublier le 17e. Même le 16e, j'ajouterai. Voyez, mais n'oublions pas ce 18e et alors des gens quant à. Il est là, il est présent, on sent un peu ce personnage. Quand Marc Fumaroli nous parle de cette Europe française, même si parfois on peut considérer, certains considèrent qu'il exagère peut-être un petit peu en magnifiant cette Europe française, il ne faut pas être dupe, etc. Mais je trouve qu'il fait du bon travail, car dans cette Europe française, il parle vraiment de personnalités francophiles qui aiment ce pays, qui aiment cette langue, les valeurs, etc. etc.
L'Europe française, c'est l'étranger qui admire la France, c'est l'étranger en Europe qui admire la France.
Oui, mais je pense...
C'est le rayonnement de notre culture. On pense à Frédéric II, mais...
Je pense que le marketing de l'époque est très différent de celui d'aujourd'hui. Je crois que le marketing d'aujourd'hui est destructeur parce qu'il est, si vous voulez, il n'est pas passoire. Il ne passe pas, il ne retient pas certains éléments. Et je crois que le marketing, on dirait mercatique en français, mais ce n'est pas un joli
mercatique.
Terme. Mercatique,
on dit mercatique,
oui,
c'est
le
mot officiel.
Je le dis quand même, c'est le mot officiel, mais il n'est pas très très joli. Et je dirais que le marketing du 18e est beaucoup plus élitiste. C'est peut-être un terme qui fait un peu peur, mais élitiste qui respecte l'autre, qui n'impose pas. L'autre aime, il choisit son plat français, si vous voulez, etc. Alors qu'aujourd'hui, ce marketing, on ne choisit pas tellement son plat, on vous l'impose par l'odeur, par autre chose, beaucoup plus. Donc je crois qu'il y a une différence entre le 18e et le 20e ou 21e siècle de cette culture de masse qui alors est vraiment bulldozer, si vous voulez, qui est, on pourrait utiliser aussi le terme français, etc. Mais évidemment, c'est vrai qu'il y a deux sortes de publics quand même. L'époque est beaucoup plus 18e, beaucoup plus élitiste, donc touche à un certain milieu qui a ses codes, etc. Aujourd'hui, c'est quand même très différent, nous avons affaire à des milieux. Donc, il faut s'adapter. Donc, l'important pour la langue française, c'est l'adaptation.
Le français était l'apanage d'une élite, d'une aristocratie européenne où tout le monde était peu ou prou cousin.
Oui, mais à l'avant... Oui, tout à fait. C'est vrai. Mais l'avantage, c'est que quelqu'un qui aime cette langue française ou qui aime d'autres langues, bien entendu, ce quelqu'un qui aime la langue française peut se hisser jusqu'à cette élite assez facilement. On reconnaît même aujourd'hui quelqu'un qui chérit notre langue. Tout de suite, pour quelqu'un qui est sensible à cela, tout de suite, on le regarde, on l'apprécie. Regardez tous ces Africains qui apprécient la langue française. Ils sont choyés en France aujourd'hui. D'autres amis du monde entier, ils sont choyés parce que nous avons ces mêmes codes. Mais là, attention, n'oublions pas, la langue française, si vous voulez, au cœur de notre patrimoine, en même temps, nous entraîne vers les autres cultures. Il ne faut pas être trop narcissique. Je crois que c'est très important, le dialogue des cultures.
Axel Mauger, à tout de suite.
Sur Canal Académie, découvrez le parcours étonnant du naturaliste Théodore Monod de l'Académie des sciences. Initialement océanographe, il tomba littéralement amoureux du désert, où jusqu'à ses 92 ans, il foula le sable de longues marches, toujours à l'affût de nouvelles plantes, fossiles ou roches. Retrouvez dans notre médiathèque la vie de Théodore Monod, contée par son biographe Roger Kans.
Axel Mauger, notre invité pour cet éclairage consacré au privilège du français et d'une manière générale, le défi du français dans le monde. Aux éditions Humanitas, le privilège du français, l'essai donc d'Axel Mauger, qui est universitaire, chroniqueur, essayiste et qui représente allègrement la France à l'étranger, en particulier par les nombreuses conférences que vous pouvez donner. On pense aux États-Unis, où vous étiez récemment, où vous nous en avez parlé, dans la première partie de cette émission. Alors, le mot privilège, puisque vous avez dit justement... précédemment, il ne faut pas être trop narcissique et que le français, c'est d'abord un pont, enfin c'est aussi un pont vers les autres cultures, et que le dialogue des cultures est tout à fait important. Le privilège du français, un privilège, ça renvoie quand même à une dérogation réservée à un petit nombre de gens. Et on évoquait tout à l'heure l'aristocratie du XVIIIe siècle. Est-ce que vous ne craignez pas que ce mot de privilège nuise à l'expansion du français ?
Mais c'est-à-dire, ça, vous n'avez pas tort, c'est un risque. Mais nous apercevons que le privilège, cette dérogation, ce qui est tourné vers l'élite, nous sommes finalement très nombreux à le partager, ce privilège. Donc finalement, en même temps, et c'est ça qui est assez merveilleux, dans le titre, le privilège du français, c'est que finalement, ça ne s'adresse pas à un petit nombre. Regardez Canal Académie, seulement Canal Académie, les ondes desquelles nous parlons. Canal Académie a démarré avec quelques milliers d'auditeurs. Aujourd'hui, nous approchons des 500 000 auditeurs. Donc ce privilège de Canal Académie, radio de l'Académie française, est au contraire, se tourne vers l'ensemble. Donc moi, je ne le pense pas. Je pense que ce privilège, c'est tous ceux qui se tournent vers la qualité. Or, à un moment donné de votre vie, tant pis si ce n'est pas le cas, mais à un moment donné de votre vie, si vous voulez évoluer, vous vous tournez vers la qualité. Et regardez, celui qui aime les voitures, eh bien, il va faire son choix à un moment donné. Il va se dire, ah bah quand même, cette marque, je ne citerai pas de nom, bien entendu, cette marque est vraiment meilleure qu'une autre. Et il se tourne vers telle marque. Donc, je crois que c'est un peu ce qui se passe pour la langue française. On se tourne vers quelque chose vraiment de qualité, etc. Pour moi, le côté élitiste, c'est quelque chose qui peut rejoindre non seulement l'élite à noyau, mais ce noyau peut rayonner beaucoup.
Donc, ça veut dire que le français ne doit pas jouer dans la même cour que l'anglais.
Absolument.
Pas du tout de concurrence.
C'est ce que je dis dans mes livres. Et vous avez tout à fait raison, il n'y a aucune concurrence. C'est le mot encore de Druon, il disait l'anglais c'est une nécessité. Bon, certains veulent dire dans les affaires. Oui, regardez, dans les affaires, c'est l'ultra-capitalisme. L'affaire des banques actuellement pour, vous savez, les emprunts, l'immobilier, etc. Donc, il n'y a plus du tout de règles. Or, en France... il y a trop de règles, mais il faut qu'il y ait un minimum quand même de règles, si vous voulez, etc. Et nous ne jouons pas dans la même cour parce que je pense que nous sommes des latins, nous avons des sentiments, nous avons un esprit latin, etc. Nous ne faisons pas les choses comme le monde anglo-saxon. Et je crois que c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que nous sommes totalement différents, mais nous sommes très différents. Le fait d'être latin, ce n'est pas être anglo-saxon. Alors, surtout, ne croyez pas que je fasse du racisme. Les anglo-saxons ont des qualités que nous n'avons pas et nous avons des défauts que les anglo-saxons n'ont pas. Nous jouons dans d'autres divisions, pas forcément meilleures, mais nous sommes vraiment des êtres à l'origine pour qui la culture est quelque chose de fondamental.
Mais Axel Mauget, quand même, vous devez être agacé, j'imagine, par l'omniprésence du globish, cet anglais un peu pidgin, qui se réduit à 300 mots, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la langue anglaise en soi.
Non, c'est triste.
Vous aimeriez quand même que le français soit davantage à l'honneur, reconnu, comme il l'est d'ailleurs dans les textes par beaucoup d'institutions, mais comme il ne l'est plus dans les faits. Et ça, c'est quand même important.
Non, mais là, vous m'interpellez, si vous voulez.
Si on prend l'exemple de la Commission européenne, par exemple, des travaux européens, on sait que tout se fait en anglais, alors que le français devrait être à parité.
Bon, le seul problème, moi qui, si vous voulez, si on parle très, très, très sérieusement, comme nous le faisons d'ailleurs depuis le début de l'émission, je crois que ce qui nous manque tout de même, c'est une sorte de, je dirais, de tableau général du français, aussi bien en France, en Europe et dans le monde, qui n'a pas vraiment été fait à plus, je dirais, de 50%. Et ça, c'est là, c'est un petit peu le drame de la question du français en France et dans le monde, et de la francophonie, c'est que nous n'avons pas, nous commençons maintenant, heureusement, certains essayistes, nous essayons de travailler pour apporter des preuves. Parce que vous dites, le français, vous parliez, je ne sais pas si c'est le terme que vous avez utilisé, mais d'effacement. N'oublions tout de même pas que le français, c'est ce que je dis dans le livre, vous l'avez bien sûr lu, que le français est quand même langue officielle dans une trentaine de pays, que le français est considéré à l'ONU comme ailleurs, comme la deuxième langue de communication mondiale. Bon, mais alors, c'est vrai, très loin, ou assez loin, ou pas toujours très loin, mais assez loin de l'anglais. Bon, mais est-ce que l'anglo-américain triomphe surtout dans le domaine financier, il ne faut pas l'oublier, ce qui est quand même très, très important, évidemment, mais est-ce qu'il triomphe parce que nous sommes mauvais, pas suffisamment bons? Je pense que c'est parce que nous ne sommes pas assez combatifs. Ça rejoint encore ce que nous disions tout à l'heure, la francité. Si nous étions fiers de notre langue, moi je suis fier de ma langue. Mais alors, certaines personnes qui, eux, considèrent que le français est un peu maintenant, un peu à la marge, enfin, ils exagèrent totalement parce que c'est pas vrai, mais ils ont l'air presque de me reprocher ma fierté. C'est presque scandaleux. Moi, je suis fier d'être français. Je parle quand même deux autres langues. Les autres pays me passionnent, m'intéressent. Et je trouve tellement d'amis francophiles, de personnalités francophiles, voire francophones dans le monde entier, que je m'étonne, que certains s'étonnent, que le français soit un peu en perdition. Alors, je crois qu'une partie de notre élite politique ne fait pas ce qu'elle devrait faire pour le français. Si demain matin, le gouvernement actuel, je n'ai aucun reproche à leur faire en particulier, ils viennent débarrer, mais si le gouvernement, demain matin, prenait à corps la question du français, moi je crois qu'on pourrait régler et surtout demander à certaines personnes compétentes ce qu'il faut faire.
Qu'est-ce qu'on réglerait?
Ah ben on pourrait régler d'abord le statut du français en France, c'est-à-dire donner une place majeure.
Mais il est reconnu, c'est la langue de la Constitution. C'est la langue,
oui, en France quand même, le français a une place importante. Mais par contre, il y a la question des brevets, là, actuellement. Et la question des brevets, il ne faudrait pas que le français soit mis de côté.
Le protocole de Londres.
Le protocole.
Vous pouvez en dire un mot?
Vous savez, je ne suis pas un expert.
C'est quand même très important.
C'est très important. Je ne suis pas un expert. Je crois que d'autres personnes que moi, je peux.
On aura l'occasion d'en parler, d'ailleurs, ici même.
On aura l'occasion d'en reparler. Je crois que, si vous voulez, le fait que des brevets autres qu'en France, d'autres pays européens, doivent exclusivement être présentés en anglais, serait grave, alors qu'aujourd'hui...
Il n'y a plus l'obligation de les traduire.
Voilà.
Fait, c'est ça.
Et ça, c'est grave. C'est grave. Parce que, n'oubliez pas une chose. Quand moi, je défends le français, je ne le défends pas uniquement parce que c'est le français. Je le défends, bien sûr, parce que j'aime ma langue, parce que Amin Malouf aime ma langue, ou d'autres aiment notre langue. Mais je le défends pour le pluralisme. Parce que si nous acceptons le plat unique, c'est le plat unique, cher ami. Et donc, il faut défendre le pluralisme. Quand moi, je défends le français, j'ai tout de suite dans la tête, et j'ai réservé un chapitre sur l'Italie.
On va en parler.
Parce que je constate que c'est l'effondrement de l'italien dans le monde et dans une partie de l'Europe, etc. Je m'offusque de cela. Je suis contre cela. Et dès que j'aurai un peu de temps, par exemple, je me mettrai à apprendre davantage l'italien. Il faut tout ce que nous luttions pour avoir le maximum de culture. L'Italie, c'est vraiment notre sœur jumelle, si vous voulez, etc. Pour ces Marie de Médicis ou tant d'autres, etc. C'est notre sœur jumelle. Comment peut-on laisser aller l'italien comme ça? C'est pas normal.
En fait, vous jouez le français qui serait la figure de proue, la première des langues à défendre l'ensemble du dialogue des cultures, et toutes les cultures menacées par le globish.
Bon, je ne saurais m'attribuer à...
C'est le discours de la francophonie depuis plusieurs années.
C'est le discours de la francophonie. Et je crois que c'est un beau discours à ce niveau-là. Il ne faut pas seulement que ça soit un discours, que ça soit dans la réalité. Mais c'est important parce que le français est en deuxième position, pas en locuteur, mais en rayonnement. Parce que c'est vrai, le français aujourd'hui, peut-être ça ne sera pas vrai demain, mais le français au jour d'aujourd'hui est encore en rayonnement au deuxième rang dans le monde. C'est une évidence. Le seul problème, il faut utiliser ce rayonnement juste parce que les gens l'apprécient, pour au maximum faire que le rayonnement des autres puissances linguistiques ou des autres ensembles linguistiques continue d'être, etc., et de rayonner dans le monde, etc. Donc, s'il y a un affaiblissement encore plus fort du français, croyez-le, ça va être la disparition, d'ailleurs c'est programmé, la disparition des langues, il en meurt presque chaque année ou tous les 10 ans. Nous aurons beaucoup moins de langues parlées sur cette terre à la fin du 21e siècle qu'aujourd'hui. Donc, nous nous battons pour qu'il y ait ce pluralisme. Et non, s'il n'y avait pas ce combat pour le pluralisme, c'est-à-dire pour l'ouverture d'esprit, pour l'érudition mondiale, je ne suis pas maurassien pour seulement défendre le français. Non. Le combat est un combat vers les autres. Et je dirais, c'est de la géopolitique. Je me place, si vous voulez, je ne me place pas en tant que combattant économique, donc en tant que tueur, parfois, parce qu'il faut vraiment abattre, enfin, il faut avoir, obtenir ce que l'autre n'obtiendra pas pour réussir. Je me bats justement pour cet humanisme français de Rabelais à Voltaire, à Malraux et à bien d'autres. Je me bats pour ça. Regardez, l'exemple de Malraux est extraordinaire. Regardez nos écrivains dont on ne parle pas assez aujourd'hui parce qu'on ne les connaît pas assez, mais nous avons de très très bons écrivains, des gens qui s'intéressent au monde. Et la francité, si vous voulez, j'en arrive, vous me faites dire des choses intéressantes là, mais la francité n'est pas assez ancrée encore dans toutes nos élites pour justement rayonner suffisamment, infuser et dire aux autres, voilà comment on se bat, voilà, on n'en fait pas assez, on n'en fait pas assez.
Alors Axel Moget, on va passer...
Pardonnez ma passion.
Non, pas du tout. On passera justement à l'Italie, il faut que vous nous parliez de l'italien et de l'Italie où le français a... Les liens entre les deux pays sont très forts de ce point de vue-là. Alors vous nous en parlerez, mais tout d'abord encore une question quand même. L'anglais, on a bien compris que vous n'étiez pas un décliniste, que vous ne vouliez pas justement entrer dans cette logique-là. Mais l'anglais est la langue du commerce, de l'économie, de la finance, de la science. Et en somme, il reste au français le domaine, non pas futile, mais l'extra, la culture, la pensée peut-être, tout ce qui relève, mais tout ce qui ne relève pas de l'immédiate efficacité. Comment est-ce qu'une langue peut se maintenir à son second rang mondial, à son deuxième rang mondial, sans être justement dans le quotidien économique des gens ?
Alors, moi, je vous réponds très simplement à cela. La France, en tant que rayonnement, est certainement aujourd'hui encore, elle occupe le deuxième rang du rayonnement mondial pour sa langue, pour sa culture, pour, si vous voulez, bien des choses dans le domaine, par exemple, culinaire, etc. N'oublions pas que la France n'est pas au dernier rang dans le domaine économique. La France est, je crois, si je ne me trompe pas,
je parlais du français.
Du français. Oui, ben, le français, si vous voulez, aujourd'hui même, garde une place considérable, tout à fait considérable. Alors, c'est vrai, au point de vue locuteur, alors là
toutes les grandes entreprises parlent en anglais, hein, quasiment.
Ben, si vous voulez, non. Là, vous commettez.
Enfin, je m'excuse. Renault est revenu sur ses dispositions.
Absolument, en partie. Et d'après le document que je cite d'ailleurs dans mon livre de 2001, fait par la Défense de la langue française, on se trompe beaucoup. Je crois que 70% des entreprises françaises utilisent à fond le français comme première langue. Plus de 70% des entreprises françaises. Donc, par contre, c'est vrai, vous avez raison, un certain nombre de grosses entreprises, que quand on dit 100% des entreprises, il y en a des grosses, il y en a des petites, il y en a des moyennes, etc.
Bien sûr.
Mais l'anglais est une nécessité. C'est évident. Mais le français garde encore une aura importante, même tout à fait dans le domaine économique. Pas suffisant, c'est vrai, mais nous ne sommes que la 6e puissance économique mondiale, donc les anglo-saxons sont quand même plus nombreux que nous, s'il faut bien le dire. C'est le 2e ensemble mondial en locuteur après la Chine, évidemment. Ensuite, le 3e ensemble, c'est l'Inde, et le 4e ensemble, c'est la francophonie. Donc, si vous voulez, et les enjeux. Mais dire que le français, dans le domaine économique, est complètement dépassé, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Et je crois que certains le disent. Justement, là, vous m'avez peut-être un peu provoqué, mais certains le disent à tort. parce que nos entreprises, parce qu'ils ne connaissent pas nos entreprises, nous avons des entreprises ultra performantes. Je n'ai plus là le nom en tête de cette entreprise, une entreprise scientifique, parce que avec les sigles, c'est assez difficile, mais qui, avec un budget 500 fois moins important qu'Harvard, a produit des prix Nobel de façon quotidienne. Donc, en France, nous avons un certain nombre d'entreprises extrêmement performantes dans bien des domaines. Ben, écoutez, regardez, dans le domaine de l'océanographie, eh bien, nous sommes au deuxième rang mondial avec les États-Unis. Je vous disais, les États-Unis. Le spatial, c'est pas mauvais non plus. Bon, dans bien des domaines. Donc, je crois que dire que c'est justement une grande erreur, que dans le domaine économique, nous ne faisons pas, nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas assez bons, mais nous sommes bons dans bien des secteurs.
Voilà une mise au point faite par Axel Mogel, notre invité, pour évoquer le privilège du français aux éditions Humanitas. On se retrouve dans quelques instants. Axel Mogel pour cet éclairage est notre invité pour évoquer le privilège du français aux éditions Humanitas. C'est son dernier essai consacré, bien sûr, aux défis que représente la présence du français au monde. Et on a bien compris, Axel Mogel, que vous n'étiez pas un décliniste. Non, le français ne va pas mourir, surtout, ça serait une mauvaise logique dans laquelle il ne faut surtout pas entrer. Et puis, bien sûr, le français est un pont vers les autres cultures. C'est un pont aussi vers le pluralisme. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous nous avez dit. Une incarnation peut-être du pluralisme. Pluralisme qui tend à disparaître avec une mondialisation qui n'est pas toujours heureuse. Alors j'aimerais qu'on en vienne, si vous le voulez bien, de nouveau, un petit retour dans l'histoire, puisque vous nous avez parlé du XVIIIe siècle, que vous nous parliez de l'exemple de l'Italie francophile. À quand remonte cette francophilie italienne ?
Écoutez, vous savez, moi ce que je reproche à tous ceux qui, soi-disant, s'intéressent aux Français dans le monde et au dialogue des cultures, je reproche de ne pas aller finalement assez sur le terrain. Parce que vous allez dans n'importe quel pays, ou dans beaucoup de pays, et vous apercevez qu'il y a là des pépites, des mines d'or, des amitiés formidables. Je pense à l'Argentine, je pense à l'Italie, comme on parle de l'Italie maintenant. Et en Italie, chaque fois que je vais en Italie, j'y vais assez souvent, j'ai des amis qui me disent « Mais vous, Français, vous oubliez l'Italie, vous ne nous appréciez pas assez, vous fermez des consulats, etc. etc. » Bon, donc, il y a une demande de français, mais que voulez-vous ? Quand au bout d'un moment, si les gens ne se sentent pas aimés, c'est un grand ressort de la vie, ils ne vous aiment plus. Alors, moi, je connais beaucoup de francophiles italiens, ils sont souvent critiques, voire très critiques avec nous, mais ils sont critiques dans notre langue. Alors, vous voyez, ils connaissent encore notre langue. Donc, il y a beaucoup plus d'Italiens qui parlent le français que de Français qui parlent l'italien. C'est un peu injuste, si vous voulez, etc.
Et ça fait longtemps que ça dure.
Alors, moi, ce que je reconnais à l'Italie, et pourquoi je parle de l'Italie comme ça, c'est que je reconnais une ouverture d'esprit remarquable, une vivacité, un univers culturel, bah, Venise, c'est l'endroit où il y a au mètre carré le plus de richesses culturelles au monde, si vous voulez, etc. Donc, c'est un univers de culture. Il y a aussi, bien sûr, la mafia, bien d'autres choses, mais on ne va pas s'amuser à parler de ça. On va parler vraiment de culture, de littérature. Et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire, c'est l'Italie, c'est un peu notre passage, c'est une possibilité de passage pour mieux comprendre le Québec. Parce que le Québec, eh bien, nous reproche de les avoir abandonnés, c'est assez dur. Encore aujourd'hui, on nous reproche, c'est vrai, 1763, il a fallu plier bagages, etc., etc. Bon, c'est une autre histoire. Mais quelle compréhension ? Nous, on a oublié pendant très longtemps, pas aujourd'hui bien sûr, mais on a oublié le Québec. Eux ne nous ont pas oubliés, mais les liens se sont longtemps distordus, puis ils ont redémarré à partir des années 60. Or, les liens du Québec avec l'Italie sont restés très très forts, à cause justement du côté catholique pendant longtemps, même si aujourd'hui, maintenant, évidemment, c'est moins fort. Mais ce côté catholique, les liens sont restés. Et alors, j'ai retrouvé en Italie un certain nombre d'universitaires tournés vers la francophonie à partir des années 80, vers la fin des années 70, qui ont une bonne connaissance du Québec, qui évidemment connaissent très bien la France, et qui voient juste souvent quand il s'agit des relations entre la France et le Québec. Alors, ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, où ils ne mâchaient pas leurs mots, où ils ont compris, avant nous, voyez, que c'est en se tournant vers non seulement le français en France, mais dans la francophonie, les Français dans la francophonie, que l'avenir était là. Donc, dès les années 80, on peut dire ça carrément, un petit groupe de chercheurs italiens, des universités de Florence, de Milan, de Turin, de Rome, de Bari, etc. Ces gens-là se sont tournés vers la francophonie, donc le dialogue des cultures, l'accueil des Africains, l'accueil des Québécois, etc. Et les ont compris souvent mieux que nous, en proportion, si vous voulez, des chercheurs ici et là, etc. Et alors donc, ce que j'ai aimé, en redécouvrant l'Italie dans les années 90, c'est cette ouverture d'esprit fantastique. Alors, j'arrivais en Italie, alors, ils n'ont pas que des qualités, bien entendu, mais si vous voulez, ça va vite en Italie, on oublie vite aussi en Italie, etc. Mais on essaie de faire, et seulement quand on s'emballe, et alors je me souviens de cet universitaire italien que j'ai cité déjà ici dans une émission ou deux, qui s'appelait Giovanni Dottoli, et un jour je dis, mais est-ce que c'est possible de faire cela ? On parlait d'un projet, il me dit, avec Giovanni Dottoli, imagine un universitaire français disant cela, avec Giovanni Dottoli, c'est ou possible, ou possible. Donc, pour lui, il n'y a pas d'impossibilité. Mmh. C'est extraordinaire. Bon, chez nous, c'est toujours difficile. Pourquoi créer la francophonie ? Ben, la francophonie...
Mais la francophilie, en tout cas, elle est davantage du côté de nos amis à l'étranger que chez nous, quand même, non ?
La francophilie ?
Oui, ben, fatalement.
C'est un peu fatal.
C'est logique. Je dirais la défense même de la francophonie, puisque vous avez dit qu'ils ont rallié un petit peu ce mouvement de la francophonie. On a le sentiment que le français est mieux défendu par les personnes qui l'apprennent que par les personnes qui vivent avec lui au quotidien et qui l'ont appris à la naissance.
C'est un sujet grave que vous soulignez là, parce que pourquoi ce désir de francité relativement faible chez nous, bon, avec beaucoup d'exceptions, bien sûr, hein, nous sommes à l'Académie française ici, mais ce désir de francité quand même relativement faible, eh bien, c'est parce que nous sommes oublieux de certaines de nos qualités fondamentales, mais c'est un sujet qu'il faudrait peut-être creuser. Il y avait un livre de quelqu'un qui était très inégal, il n'y avait surtout pas de conclusion, qui s'appelait « La francophobie ». Et il y a en France beaucoup d'éléments de francophobie, mais ça, il faudrait recreuser. Ce n'est pas le sujet de notre émission, il faudrait recreuser ça. Peut-être un jour, si vous le voulez, on peut en reparler. Je dirais que cette francophilie, justement, et c'est là où je me sens très à l'aise, si vous voulez, est essentielle parce que ce sont des gens qui aiment notre univers. Donc, n'obligeons pas ces gens-là à utiliser notre univers. Non, ils sont libres. Les Italiens, ils font ce qu'ils veulent. Les Espagnols, ils font ce qu'ils veulent, ou d'autres, etc.
Et qui sont décomplexés.
Ils
n'ont pas
tout à fait,
de lien.
Et même nous critiquent.
Voilà.
Et ils ont cet avantage, la belle formule de Beaumarchais que j'adore, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Et donc, c'est quand même une très belle formule. Ces gens-là, la francophonie, ils l'aiment parce que les Italiens n'oublient pas tout ce que la France a fait pour l'Italie malgré l'ogre Napoléon à Venise. Les Espagnols, alors là, les Espagnols, c'est un peu différent. Là. En Amérique du Sud, les Lumières, les indépendances, je veux dire, la Révolution française, ça reste énorme. On parlait tout à l'heure de l'économie, mais tout ce qui était jusqu'en 1930 dans le monde économique, la France était très appréciée. L'Allemagne aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais la France était importante. Auguste Comte, si vous voulez, tout à fait important au 19e, etc. Donc, la francophilie, est quelque chose de fantastique parce que c'est un peu une sorte de butin de guerre du français dans le monde entier. C'est-à-dire, en Algérie, c'est un véritable butin de guerre, donc vous n'avez pas été gentil avec nous, mais la langue française, c'est un peu notre butin de guerre, alors que dans d'autres pays, Brésil ou ailleurs, c'est quintessence, ils utilisent ce qui est le meilleur en France. Alors pourquoi nous serions bénés et peureux d'utiliser ce qui est bien dans notre pays, sans faire de narcissisme et sans dire « moi je », pourquoi ne pas utiliser ce qui est bon en France et ce qui est bon dans le monde ? Si dans le monde, on s'aperçoit que c'est bon, pourquoi ça ne serait pas bon pour nous ? Alors là, c'est la question que je pose. Alors, n'oublions pas juste deux chiffres. Le français première langue, c'est 120 millions de personnes à peu près. Le français deuxième, troisième, quatrième langue, c'est quand même 150 millions de personnes. Et le français, les apprenants de français dans le monde, les jeunes qui apprennent le français, c'est presque 100 millions de personnes. Avec 900 000 professeurs de français à l'étranger, ou pas tout à fait 900 000, etc. C'est important tout ça.
Puissent les Français de France en avoir conscience.
Puissent les Français de France en avoir
conscience. Axel Mauget, belle expression pittoresque, butin de guerre, voilà, pour qualifier cette réalité. Je reviens à l'Italie. L'Italie a été convoitée par l'Allemagne, par la France. Pourquoi plus la France que l'Allemagne, par exemple ? Parce que les Italiens ressemblent peut-être plus aux Français qu'aux Allemands. Alors, ils n'auraient pas voulu se tourner vers d'autres cultures plutôt très différentes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont rapprochés de nous et qu'on considère que c'est un peuple très proche du nôtre ?
Ben, c'est une belle question que vous posez là, parce que c'est une question qui est riche en histoire. Ben, d'abord, je pense que c'est vraiment le tempérament latin. C'est indéniable, le tempérament. Et puis attention, l'Italie, la France a eu l'intelligence d'exploiter, enfin, les termes sont peut-être pas un peu injustes, mais de se rapprocher de l'Italie, parce que la France a compris que l'Italie était au cœur même de la naissance de la culture. Nos deux mamelles, nous, Français, et nous rendons grâce, s'il y a butin de guerre, mais il faut aussi, nous avons un butin de guerre à rendre. Au départ, c'est la Grèce, ensuite, c'est l'Italie. Et pour nous, nous avons appris, pour certains d'entre nous, le grec. Donc, qu'est-ce que ça vous donne, le grec ? Relisons Jacqueline de Romilly. Ça nous donne le vocabulaire, ça nous donne une expression extraordinaire dans le monde. Ensuite, l'Italie, c'est ce royaume. Première grande université, c'est quand même au 8e, 10e siècle, Bologne.
Axel Mauget, l'Italie et l'Italien auraient pu justement exister par eux-mêmes, sans avoir besoin de la France.
C'est-à-dire que, oui, alors ça, c'est très intéressant comme question. L'Italie, absolument. N'oublions pas que l'Italie a fait aussi un peu la France, même pas mal. Les Romains étaient sur place. Et ce qui s'est passé, ça s'est un peu inversé. Je pense qu'il y a eu ce génie français des rois de France et le centralisme. Je crois que le fait que la centralisation, l'État centralisateur, la France a su créer avant presque tout le monde, pas avant la Chine, mais avant beaucoup de pays, l'État. Et c'est l'État qui fait, il y avait des États, beaucoup d'États en Italie. En France, l'État a été créé. Et regardez, des grands noms qui sortent chez nous, ça reste, quand on lit un petit peu, on pense à Louis XIV. Certains disent que c'était vraiment le patron de la General Motors de l'époque, etc. etc. Et c'est choquant d'en arriver là. Mais ça, c'est un peu les néo-modernes qui disent ça. C'est complètement ridicule. Mais ça, c'est une image.
Donc, bien sûr, Axel Mauget, la France et le français sont associés à l'État. Ça a été un vecteur d'efficacité. Alors que pour l'allemand ou l'italien, dont les territoires sont restés émiettés pendant très longtemps, ça a plutôt été un obstacle, justement.
Ah oui, tout à fait. Et puis je pense qu'il y a alors un combat, évidemment, nous ne sommes pas uniquement entre gens de culture, entre gens de très polis, entre gens. Il y a un combat entre les peuples, évidemment, qui se fait, il y a un combat entre les sociétés. Il ne faut pas être naïf du tout à ce niveau-là. Il y a un combat mondial, et c'est sûr que la France n'a rien fait a priori, pour que Venise continue d'être la grande métropole, si vous voulez, économique mondiale. Donc, non, il y a un combat économique qu'il ne faut pas mettre de côté. Et alors, je crois que non, le différent, pourquoi la France et l'Italie ne s'entendent pas mieux aujourd'hui, c'est que le différent provient de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Le fait que les Italiens aient choisi le camp des Allemands nous a fait du mal, et De Gaulle ne l'a pas pardonné, ne l'oublions pas. Enfin, c'est quelques éléments que je peux rappeler, etc. Donc, nous avons un contentieux qui n'a pas été réglé, je pense qu'il n'a pas été totalement réglé. Il y a des tas de choses sous silence. Alors que si, entre Italiens et Français, nous organisions de vastes débats, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant à Canal Académie, avec des gens de qualité, pour dire, remettons les pendules à l'heure, Je crois que nous, Français et Italiens, nous méritons mieux que cela. Et je crois qu'il y a un manque d'Italie dans l'Europe d'aujourd'hui. Il y a un manque d'Italie, et c'est un peu à ma façon...
Oui, vous avez voulu un peu réhabiliter, justement.
Ah, tout à fait. Regardez, nous, les courtisanes.
La force de l'Italie.
La France vers la féminité. La féminité et la France. Eh bien, n'oublions pas tout ce que nous devons à l'Italie, de fabuleux. N'oublions pas les courtisanes italiennes du XVIe siècle, prodigieux personnages. Nous devons beaucoup à l'Italie, et plus encore.
Axel Mauget, notre invité, pour parler du privilège du français aux éditions Humanitas. À tout de suite.
Dans sa médiathèque, Canal Academy vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique? Quels sont ses combats? Quelles sont ses fiertés, ses projets? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Academy.
La langue française et le défi du français sont à l'honneur avec Axel Mauget, qui nous fait l'amabilité de nous parler du privilège du français. C'est son dernier essai aux éditions Humanitas. On a beaucoup parlé de l'Italie, on a parlé également, puisque je suis le chapitrage de votre essai, du siècle des Lumières. On est revenu quelque peu donc dans notre histoire. On a également évoqué, bon, bien sûr, la présence du français au monde, le dialogue des cultures. Tout cela représente, je dirais, un aspect très important de votre démarche, Axel Mauget. Je rappelle que vous êtes universitaire, essayiste, conférencier, chroniqueur, et que, pour nous, vous évoquez justement cette présence du français au monde. Et alors, on passe à un autre continent où le français est présent. Vous l'avez effleuré jusqu'à présent, c'est le Québec.
Tout à fait.
Est-ce que l'on peut faire un état des lieux de ce privilège du français au Québec?
Alors oui, je crois que c'est une très belle question que le Québec, parce que au fond, on oublie le Québec beaucoup trop. Et le Québec a des qualités majeures. En fait, l'Amérique moderne a été d'abord faite en français. Donc ça, on l'oublie totalement. On oublie que la moitié des États-Unis actuels, ou presque la moitié, était une occupation véritablement française, en partie française, parce qu'évidemment, il y avait peu de Français là-bas, mais les Français contrôlaient avec les Indiens les territoires, etc.
Donc, jusqu'à Louis XV.
Jusqu'à, on peut dire, tout à fait Louis XV. Alors, au fond, il y a aujourd'hui 3 capitales en Amérique du Nord, même si le Québec n'est pas un pays indépendant, et bon, ça, on pourra en parler, c'est un autre sujet, mais il y a quand même 3 capitales, qu'on le veuille ou pas. Il y a Québec, c'est une capitale française, où le français, si vous voulez, est là très fort. Vous avez ensuite, bien entendu, Ottawa, c'est-à-dire le pouvoir anglo-saxon, enfin canadien, anglo-saxon. Et ensuite, il y a Washington. Donc, on l'oublie, même si le Québec, c'est très petit, pas tellement en géographie, en fait, mais c'est petit parce que le nombre d'habitants. Mais n'oublions pas que, grosso modo, le Québec et les descendants des Québécois, même si tous ne parlent pas le français, c'est près de 15 millions de personnes. Et c'est un véritable chiffre, si vous voulez, etc. Entre la Nouvelle-Angleterre, le reste, aussi, etc., etc. Donc le Québec, c'est quelque chose de fort. Et jusqu'à présent, le discours était un discours amical, parfois revendicatif par rapport à la France, donc le discours des Québécois, et rarement tellement positif, si vous voulez, etc. Il nous en voulait. Et toujours. Et
là, récemment, je t'aime moi non plus.
Oh, tout à fait, tout à fait. Et récemment, il y a un livre tout à fait intéressant qui est sorti, qui est de Christian Dufour, qui s'appelle « Le défi français ». Montréal, Septentrion, 2006. Et là, vu du Québec, d'aucuns s'étonnent, je lis un petit peu, un passage, que les déclinistes français n'apprécient pas à leur juste valeur les nombreux atouts dont dispose le pays des droits de l'homme. Pour nos amis québécois, notre État aurait intérêt à être plus libéral et à s'intéresser davantage aux possibilités des francophones. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le socialisme rampant en France, avec évidemment ses erreurs, il peut avoir des qualités, mais il y a aussi ses erreurs. Au Québec, pendant longtemps, il y a eu aussi un État un peu socialisant, donc vous voyez, une sorte de proximité avec la France d'hier. Donc, sans exagérer, sans vouloir être méchant. Aujourd'hui, un essayiste, Christian Dufour, le défi français, commence à penser, c'est la première fois à mon avis, vraiment au Québec, je crois que c'est la première fois à l'époque moderne, dans les 20 dernières années, à penser le monde en français en incluant la France. Alors ça, c'est quand même nouveau, c'est intéressant, Et il souligne également que dans, je parle de Christian Dufour, que dans l'interface atlantique, le Québec possède une expérience dont la France pourrait tirer des enseignements. Il est important de rappeler que le Québec français s'affirme comme une vieille et authentique société nord-américaine. Alors nous, nous n'avons pas du tout conscience, nous Français, dans l'ensemble, que le Québec est une véritable et authentique société nord-américaine. Et donc, le point est pourquoi ? Je vais en choquer peut-être certains, j'espère que je ne ferai pas autant de bruit que Ségolène Royal, mais je suis plus sérieux. Pourquoi le Québec, si vous voulez, moi j'ai un point de vue qui est très personnel. Et je ne me positionne pas, je suis français, mais je donne mon avis. Pourquoi le Québec, à mon avis, n'a pas gagné son indépendance? Eh bien, je peux le dire aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas pu le dire il y a 10 ans, etc. Pour une raison très simple, c'est que les Québécois eux-mêmes étaient à deux doigts, il faut bien le reconnaître. Et les Québécois eux-mêmes étaient très divisés sur la chose. Et pourquoi étaient-ils très divisés? Parce que la moitié, je dirais d'entre eux, des francophones du Québec, voulaient cette indépendance, c'est-à-dire leur propre territoire, etc. Bon, mais l'autre moitié, lorsque les frontières tombaient, ils avaient l'impression que eux, leurs ancêtres qui avaient fait l'ensemble de l'Amérique du Nord, se retrouvaient dans une enclave.
Dans une réserve.
Dans une réserve, à tort ou à raison. Mais si vous
voulez. On oublie qu'ils se projettent en fait sur toute l'Amérique.
Voilà. Un grand nombre de Québécois, est-ce la majorité des francophones, je ne sais pas exactement, mais une forte, quelque chose d'important, un nombre important, se projettent dans. Ils ont fait l'Amérique. Et plusieurs d'entre eux me l'ont dit au fil du temps, et ça m'a toujours impressionné. C'est cet homme de Chicoutimi, cet homme ou cette femme de Berthierville, je cite des petites villes, de Shawinigan, de Québec, me disant « Oui, mais nos ancêtres sont allés bien au-delà, jusqu'aux Rocheuses, etc. Le long du Mississippi, je pense à Alain Grandbois, etc. » Une sorte de Paul Morand, Alain Grandbois, poète québécois, écrivain québécois, une sorte de Paul Morand français, qui existe. Eh bien, phénomène intéressant. Pour eux, le Mississippi, c'est quelque chose qui fait rêver. Et quand moi, je suis allé à l'embouchure du Mississippi, j'ai réalisé que nos ancêtres français, ils sont allés bien longtemps et avant les anglophones, si j'en crois l'histoire, etc.
Alors, cette vision tronquée, Axel Mauget, cette vision tronquée, on la doit au fait que l'on oppose les Québécois au monde anglo-saxon, à l'anglais. Et donc, on considère qu'ils sont plutôt une tête de pont de la France ou du monde francophone.
Oui.
En Amérique, on les associe moins à l'Amérique que l'on pourrait le supposer.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est vrai. Les Québécois ne sont pas une tête de pont de la France. Je ne crois pas. Ce sont des cousins qui occupent un espace et ils ont créé cet espace par eux-mêmes.
La France ne s'en est jamais servie comme telle.
Pas vraiment. Je ne crois pas. Je ne dirais pas ça. Les Québécois ont réussi quelque chose d'exceptionnel. C'est, il faut vous dire qu'il y a moins de 40 ans, on ne pouvait pas demander ou très difficilement d'être servi en français dans un grand magasin, genre les Galeries Lafayette ou etc. etc. C'était impossible. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Tout le monde parle le français, évidemment. Et surtout, les Québécois ont fait quelque chose d'extraordinaire. En français, vous parliez de l'économie, on dit « Ah, les Français, du point de vue économique, c'est tout ça. » C'est une erreur. Les Québécois qui contrôlaient à peine 30% de leur économie dans les années 60, en contrôlent plus de 60% aujourd'hui, beaucoup plus de 60%. C'est remarquable. Ils ont donc, non seulement il y a une reconquête du français, de la langue française, linguistique donc, mais une reconquête économique. Et regardez aujourd'hui, Bombardier, Cascade, dans le papier, Bombardier dans le TGV, enfin, les trains, etc. Eh bien, touchent leur bille, ils sont mondiales dans l'aviation, etc. etc. Donc, non.
En dépit d'un recul démographique assez net.
Ah, par contre, voilà. Le grand danger, ce qui n'est pas le cas de la France, le grand danger, mais moi je disais à certains amis ministres du Québec il y a des années, il y a 30 ans à peu près, ou 25 ans, je leur disais, mais pourquoi vous ne faites pas venir davantage de Français? Ben justement, il y a ce problème, je t'aime moi non plus, qui n'était pas si facile, ils n'osaient pas me répondre vraiment, etc. Je vous fais une confidence, là, bien sûr. Mais aujourd'hui, attention, chaque année, vous avez à peu près 3000 jeunes Français, je crois que c'est à peu près le nombre, 3000 jeunes Français qui vont au Québec, qui réussissent d'ailleurs tout à fait, dans l'ensemble, très très bien.
Le Canada est l'un des premiers pays d'émigration dans le monde. On se rend énormément au Canada, on s'y installe. Est-ce que, puisque vous nous avez parlé du français comme pont vers le dialogue des cultures, est-ce que vous estimez que le fait que le Canada devienne pluriculturel, devienne davantage asiatique, par exemple, puisque les communautés asiatiques sont très fortement représentées, est-ce que c'est un atout pour le français ou bien est-ce que vous pensez que c'est un vecteur de dilution du français dans un ensemble mondialisé, un peu indifférencié?
C'est une excellente question. C'est une arme à double tranchant. les gens pessimistes qui toujours voient les choses de façon négative vont se dire ça va être la dilution. Moi, je ne le crois pas. Ça pourrait être la dilution s'il n'y a pas des veilleurs, si vous voulez, des gens qui observent. Au contraire, parce que dans le monde asiatique, chinois notamment, Hong Kong pour ne pas citer, eh bien, le fait de connaître le français, parce qu'ils savent que même s'ils habitent Vancouver, le français étant la deuxième langue obligatoire de l'État, s'ils veulent un poste dans la fonction publique, il faut apprendre le français. Donc les Chinois qui sont des gens extrêmement laborieux, qui veulent absolument arriver, qui veulent s'en tirer, ils ont tout intérêt. Et donc la masse, la majorité des étudiants qui apprennent le français à Vancouver, ce sont des gens d'origine chinoise. Alors donc au contraire, plutôt qu'il y ait ce phénomène de Dieu, il y a toujours un danger de dilution si des gens oublient de mettre des barrières, comme par exemple laisser aller les projets, si vous voulez, que les projets, les brevets, soient uniquement soumis en anglais. Mais le danger d'illusion est beaucoup moins fort que se tourner vers le dynamisme, et le dynamisme est toujours payant. Imaginez que le français est une langue qui intéresse en Chine. Pourquoi ? Pour aller en Afrique travailler. Parce qu'en Afrique, on parle beaucoup le français.
Et ça, c'est d'actualité.
Pour se tourner vers la qualité. Alors, n'oublions pas les atouts du français. C'est la quatrième partie de mon livre, si je ne m'abuse. Et les qualités du français, les atouts du français, cet univers qualitatif. Regardez aux États-Unis.
Alors, les Chinois, poursuivez sur les Chinois.
Oui, tout à fait.
Aller en Afrique, que c'est la qualité, est-ce qu'il y a d'autres choses ?
Eh bien, écoutez, pour la Chine, il y a d'une part l'Afrique, d'autre part le Canada. Et donc, petit à petit, ils réalisent. Ensuite, quand même, les grandes entreprises françaises, n'oublions pas tout de même le nucléaire, c'est quand même pas négligeable, le TGV, nous verrons par la suite. Et dans le domaine culturel, je me souviens de ce premier attaché de l'ambassade de Chine, qui me disait, il n'y a pas longtemps, vous savez, pour nous, ça c'est magnifique, vous êtes encore, je sais pas s'il a dit d'ailleurs le encore, une très 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 grande culture mondiale. Et je pense que, parce que les Chinois savent reconnaître l'univers culturel. Songez au film récemment de La Cité Interdite. Quand vous voyez ce film, vous ressortez de là en vous disant « Oh là là, on parle de la Chine, on parle de la pollution, on parle du monde, mais être capable de faire un film pareil, c'est tout à fait remarquable. » Donc, c'est un pays, n'oublions pas, nous revenons au XVIIIe siècle, grâce à la Chine et grâce à votre question, n'oublions pas qu'au XVIIIe siècle, les deux grands pays dans le monde, pour la partie asiatique, c'était la Chine. Pour la partie occidentale, c'était la France. Et aujourd'hui, alors, phénomène de géopolitique, si vous me permettez, où nous arrivons. Alors aujourd'hui, comment on distribue les cartes ? Eh bien, alors, les cartes sont distribuées de façon différente. Aujourd'hui, le grand pays occidental, par la force de son économie, c'est évidemment force, d'ailleurs, il y a aussi des problèmes, bien entendu, c'est les États-Unis. Et les deux pays, les États-Unis donc pour le monde occidental, les deux pays qui étaient très forts au XVIIIe siècle, que deviennent-ils ? Eh bien, la Chine réapparaît de façon extrêmement forte avec une population immense. Et la France, qui a une population ridicule par rapport à la Chine, qui quand même regroupe 5% de la population mondiale, pour ceux qui connaissent le français, et 1% pour la France, eh bien, la France redevient cet aiguillon. Elle est en train de se transformer, espérons pour le meilleur. Et je crois que maintenant, le temps de la France est revenu. Je veux dire par là que c'est à nos élites, c'est à ceux qui aiment la francité, de redonner cet esprit des Lumières pour que nous ne sombrions pas, je ne veux pas faire le catastrophiste, mais dans les ténèbres, parce que c'est aussi une autre possibilité.
Il y a une sorte de retour au XVIIIe siècle.
C'est assez curieux, et moi je le pense.
Ce qui effectivement peut contredire pas mal d'analyses déclinistes qui nous voient sombrer dans une sorte de maelstrom où tout est uniformisé. Là, on mesure qu'on a quand même énormément de cartes à jouer.
On a énormément de cartes à jouer. Il faudrait maintenant donner une sorte de petite méthodologie. Bon, on ne peut pas le faire aujourd'hui, bien entendu, mais nous le ferons. Une sorte de méthodologie de ces cartes à jouer.
Si un exemple, par exemple, Axel Moget, je vous interromps, je suis désolé. La Grande-Bretagne a su très bien mettre l'anglais au service de son commerce.
Absolument.
Il y a une synergie dans la stratégie pour parler comme les entreprises. Alors que nous, le ministère des Affaires étrangères reste quasiment étranger au ministère, j'allais dire, à la vocation de la francophonie.
Ah, oui,
on mène des diplomaties parallèles.
Oui, oui, oui.
Vous voyez, ça, c'est une incohérence.
Nous sommes, État centralisateur, nous oublions. Cet État centralisateur a l'air finalement d'être scindé en quelques noyaux qui ne sont pas si centralisés que ça. C'est assez curieux. et aujourd'hui qui se dispersent au lieu de vraiment resserrer.
Il y a une dispersion, c'est ça.
Moi, je crois qu'il y a une dispersion qui est très curieuse dans un État qui, à l'origine, est très centralisateur. Il y a une incohérence, là, vraiment étonnante. Je pense aussi qu'un certain nombre de déclinistes, de déclinologues sont des gens, je dirais même, qui sont peut-être achetés par d'autres... je sais pas par qui, à vrai dire, c'est pas mon rayon. Bon, mais je pense qu'il y a vraiment
des gens... Ça fait partie de la bataille.
Ça fait partie de la bataille, qui sont tout à fait... C'est le cheval de Troie. Et je crois, en fait, que beaucoup craignent cette francité lumineuse, cette francité combattante. Regardez quand même un pays qui a autant souffert que la France quand même pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a réussi avec un personnage hors norme, qui était le premier personnage occidental, premier pays occidental, je parle bien sûr de Charles de Gaulle, à reconnaître la Chine au passage. Hein, c'est intéressant. Donc, soyez ce 18e, vous étiez en Asie, le grand pays asiatique. N'oublions pas quand même que nos savants étaient parmi les premiers experts, pas les seuls. Il y a eu d'abord les Portugais, bien sûr, les Espagnols, mais nous avons vraiment créé l'école, une école chinoise, les premiers dans le monde, hein, de façon systématique, j'entends. C'est-à-dire, peut-être pas les premiers missionnaires, mais au niveau d'un système, si vous voulez.
Puissions-nous avoir conscience de tous nos atouts ? Et on pourra justement s'y reporter. Merci beaucoup Axel Mauget d'être venu nous parler du privilège du français. C'est le nom de votre dernier essai. Aux éditions Humanitas, on peut se le procurer d'ailleurs à la Librairie du Québec.
Tout à fait, 30 rue Gay-Lussac.
Voilà, bien connu, un lieu bien connu.
Oui, un lieu intéressant.
Du monde parisien. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle une chose, c'est que vous êtes universitaire, chroniqueur, essayiste, conférencier, chargé de mission, que vous avez reçu notamment, et on en avait parlé, un prix de l'Académie française, la médaille de Vermeil de l'Académie française, pour l'ensemble de vos travaux pour la défense de la langue française. C'était en 2006. Merci et à bientôt.
Merci infiniment.